bienvenue sur Allegre FM, je suis Kad, l'homme du 92, vous écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons, ou redécouvrirons, une légende de sa discipline. En l'occurrence, ce soir, on parlera leash, shortboard, rouleau layback, tank de surf et de la légende de la semaine, comme Stephanie Gilmore. Gilmore, bien sûr, vous l'avez tous, je le sais. Est-ce qu'elle a été chaud? Est-ce qu'il a été chaud dans les t-shirts et les maillots? Dédicace à Eric Chardin. Oui, vous chantez déjà chez vous, je le sais. Pour cet épisode, je serai accompagné de Camélia, la dresseuse de bagages récalcitrant et première exportatrice française de jus de goyave. Ça va, Camélia?
Ça va et toi?
Ah, très bien, excellent. Où que vous soyez, bonne écoute, merci de votre attention, c'est l'épisode 1 de la saison 2. Et oui, mesdames et messieurs, salutations auditeurs, auditrices, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici en direct sur Allegre FM 93.1, je suis toujours l'homme du 92, et nous allons donc parler de surf. Comme on dit coucou à Hawaï déjà, tu te rappelles ça ou pas, Camélia?
Comment on dit?
Aloha.
Ah oui, aloha.
Dis-le un peu pour les auditeurs.
Aloha.
Oh, la voix extraordinaire, bien sûr. Et bien sûr, comme on est à Hawaï, est-ce qu'on a un jingle pour Hawaï? Je pense qu'on a un jingle pour Hawaï. Allez-y. T'es sur le surf, d'accord? C'est parti. Ah. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le surf, vous l'avez entendu, vous aussi, cette chanson tout de suite, ça me donne l'été, chemise hawaïenne, Ferrari, grosse moustache, casquette, magnum, bref, chacun ses refs. Alors, ça me fait plaisir d'être de retour, bien sûr, avec la régie, merci à la régie d'être là, des bisous, on a des nouveaux locaux, ça c'est trop top. On va donc parler surf, mais avant, auto-promo, vous connaissez. Alors, bien sûr, le rendez-vous en direct de l'émission, c'est là, c'est maintenant, c'est le vendredi de 19h à 20h, mais aussi le mardi matin, en rediff de 10h à 11h. Nous sommes bien revenus en direct à partir de ce 12 septembre, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tout retrouver. Trouver en podcast. Si vous êtes coincé quelque part en train de faire des courses en manif ou pris en otage dans une réunion de copropriété, ouais, ça peut arriver à des gens. C'est pas grave, vous pouvez trouver les replays sur la page de la radio, taper sur Google Allegre FM Podcast. Vous cherchez l'émission Champagne. D'ailleurs, il y a plein d'émissions sympas, l'huile sur le jeu, Cappuccino, Lusitania, Jazzland, au fil des pages et j'en passe. D'ailleurs, on m'informe de l'oreillette que l'épisode 20 et 21 du best-of de la saison 1 sont bien en ligne, à skip. Vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram, @championne l'émission. C'est de la réclame, hein. T'as vu, j'y vais à fond hein, quand même. Et bien sûr, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui en intervenante, Camélia. Merci. Comment ça va, Camélia? Est-ce que l'été s'est bien passé?
L'été s'est bien passé avec les moustiques tigres, notamment.
Ouais.
Parce qu'on a eu une petite épidémie de moustiques tigres, mais l'été
Alors,
s'est bien passé.
C'était lorsque
bien
tu chaud. Te fais piquer par un moustique tigre, que se passe-t-il?
Alors, ça dépend de la qualité de peau de chacun et de la sensibilité, mais tu peux finir aux urgences. Oui.
Il paraît que toi...
Ton bras peut tripler et faire vraiment la taille de ta cuisse.
Moi, je me rappelle d'une piqûre, je vous jure, c'est vrai en direct. Un jour, elle s'est fait piquer sur le genou, elle avait deux genoux. Voilà.
C'est pas faux.
C'est réel. D'ailleurs, moi aussi, je fais une allergie maintenant quand je suis piqué, je gonfle. C'est réel. Donc, faites attention chez vous, protégez-vous. Et bien sûr, le courrier des lecteurs de la semaine. Merci à Sandrine d'avoir trié ses 9999 mails, dont 9998 spams. Alors cette semaine, nous avons un message de Airplane 94. Êtes-vous au courant pour cette passagère, qui en avion a littéralement craqué son slip cet été? Alors oui, mais c'est une fake news, parce que ça a eu lieu en avril 2025 et non pas cet été. Your fake news, Airplane 94. Alors, je vous mets dans l'ambiance. Vous êtes in America, vous êtes sur Southside Airlines, West Coast, East Coast, Tupac, Biggie, on connaît. Vous êtes entre Chicago, Michael Jordan, et Philadelphia. Off Street of Philadelphia. Voilà, vous connaissez la chanson, dédicace à Denzel, Tom Hanks, Bruce Springsteen. Je le dis toujours très mal. Alors, vous êtes tranquille en train de regarder votre trajet, et la femme à côté de vous hurle « Macron, explosion !» Réel. Vous sursautez, et vous dites « Hein, quoi? Les ailes, feu de moteur, Iron Man, Kim Kardashian, Inoxtag, on sait pas, qu'est-ce qui se passe ?» La fille se lève, ça c'est réel, sur son siège et commence à se déshabiller. Elle enlève tous ses vêtements. Alors si vous êtes en couple, c'est problématique. Il faut normalement vous essayer de regarder ailleurs. Je te jure, c'est une histoire vraie. Il y a la traduction française un peu différente, mais ça s'est vraiment passé. Et la femme est complètement nue. Oui, elle prend son slip à deux mains, elle le craque. Le personnel de bord est en crise. Please, please, sit on your seat, please, idiot French. Parce que forcément, elle doit être française, c'est sûr. Elle hurle à nouveau, Macron, explosion. Elle est forcément française. A-t-elle un virus? A-t-elle un alien dans le ventre? Non, pas un môme, Camélia. Un alien visqueux, bizarre qui sort de ton poitrine, tout ça. Connaissez le film? On va tous mourir, crient les passagers. We gonna die. Je suis vachement bon en anglais en fait. Au fond de cet avion, François Bérou crie comme Édouard Balladur, je vous demande de vous arrêter. Voilà, tout le monde le sait, tout le monde est là. Et là, je vous jure, c'est archi vrai par contre. Et là, à ce moment-là, elle défèque sur son siège, devant tout le monde, toute nue. Est-ce que c'était un caca boulette? Est-ce que c'était un caca spray? Est-ce que c'était du caca liquide? On ne saura jamais. Je te jure, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Ça a été relié par la Dépêche en France, c'est extrêmement réel. Traumatisé de l'histoire, personne ne saura quel type de caca on avait. Et là, je me suis posé une question. Deux réactions sont possibles. La première, la civilisée, la fuite, comme lorsque vos parents vous regardent bizarrement et on discute pas avec les fous, vous savez qu'ils vont vous taper. Et la seconde, méditerranéenne, la bagarre. Elle me chie dessus, en plus en caca spray, bagarre. Et je la mise, John Cena. Cette histoire est vraie. Conclusion, allez aux toilettes avant de prendre l'avion. C'est là où vous faites semblant d'applaudir, merci de m'avoir écouté. On repart sur le sport. Et cette histoire est vraie, je t'assure, c'est vrai.
La transition.
Et oui. Alors, aloha, caca yaka.
Comment ça va?
Qui veut dire bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Bonjour et merci d'ailleurs, en dialecte d'Hawaï. Alors d'où ça vient le surf, tout ça. Donc Camélia, toi et le surf, une histoire d'amour, raconte-nous.
Oula.
Bah oui, raconte-nous comment t'as fait du surf déjà.
J'ai fait du surf parce que...
Pourquoi du surf déjà?
Alors pourquoi du surf? Je pense que c'était le dernier choix à faire parce que j'étais trop introvertie pour faire des sports en équipe.
Ouais.
J'étais trop timide et j'avais souvent envie en fait d'être seule. Ma mère a choisi de m'a proposé le surf et j'adore la mer.
Ouais.
Je suis née proche de la mer.
Ok, d'accord.
Donc ça a commencé, c'était assez difficile. Donc quand t'as un niveau débutant, c'est pas évident en fait de s'y mettre parce que ça nécessite beaucoup de force, surtout au niveau du supérieur du corps. Mais au bout de 10, allez, entre 10 et 13 séances, tu commences vraiment à apprécier le sport et tu développes en fait un certain amour en fait pour la solitude parce que c'est un sport qui est
très solitaire,
c'est excessivement solitaire et un amour aussi pour la nature.
Oui.
Donc ça c'est, je l'ai commencé comme ça, c'est en raison de ma personnalité
plutôt introvertie.
Parce que je suis passée par d'autres sports avant. Faut savoir que j'ai fait beaucoup de sports.
D'autres expériences.
J'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, bref, que des sports d'équipe. Ouais. Et au final, même la danse, en fait, ça ne me convenait pas. Je voulais vraiment être seule.
Ouais.
Sans parler à qui que ce soit. C'était ça, le but, l'objectif.
Comment vous avez vu le sport seul?
Seul, voilà. Mais au final, on a pour amis, en fait, la nature.
Ouais, la mer.
Et vraiment, on a un rapport, un genre de lien intime qui commence à se développer avec la mer et on commence vraiment à apprécier sa solitude.
C'est fou. J'ai plein de questions là rapidement avant de continuer sur le surf, mais du coup, c'est vraiment introspectif. Bah oui, parce qu'il y a rien autour à part le calme, les mouettes et rien. Au niveau du son, il y a quoi? T'entends quoi?
À part le bruit en fait des vagues et effectivement des mouettes, parce que moi j'étais au niveau de l'Atlantique, donc il y en avait pas mal.
C'est une mouette ardoise.
Puis t'avais aussi les houles en fait, parce que si tu veux, les vagues, elles sont aussi créées par la force du vent. Donc l'Atlantique, il y a certaines périodes en fait de l'année où il va y avoir de très forts vents.
Ouais.
Donc t'as vraiment quand je te dis, tu commences à avoir un rapport très intime avec la nature. C'est que au-delà du fait que tu es dans l'eau et que c'est très appréciable, tu as aussi d'autres sens en fait qui commencent à non pas à se développer mais à constater qu'il existe en fait des bruits dans la nature qu'on n'a pas pour habitude en fait de réaliser ou on n'a pas cette conscience en fait de les entendre et de les écouter dans la vie quotidienne.
Oui, parce que quand tu es en urbain, c'est plutôt
exactement. En fait, si tu veux, l'urbain va occulter en fait tous ces bruits-là. Donc véritablement ce qui se crée, c'est un genre de lien avec quelque chose qui peut paraître abstrait en fait pour les gens ou même acquis, à savoir la nature, mais c'est un lien qui est très profond et en fait tu recherches à chaque fois en fait à renforcer ce lien là et ça peut devenir très addictif, un peu comme les gens qui vont à la salle de sport. Donc tu peux aller vouloir faire ton surf 30 minutes le soir après, bon moi j'étais encore à l'école après l'école, te dire ok, je vais prendre ma planche, ou le matin, le week-end, généralement moi je me levais très très tôt pour y aller.
Et ben là je comprends encore mieux. Point Break, Patrick Swayze, Keanu Reeves, nous sommes dans les années 90, un film sur les surfeurs et les braquages. Et effectivement, le côté un peu secte, un peu proche de la nature qu'a d'ailleurs le personnage de Patrick Swayze, ou Swayze, dans le film. Oui, maintenant, je le comprends mieux. Parce que tu vois, je déteste l'eau, voilà, vous le savez tous, de toute manière, je déteste l'eau. Donc, ce n'est pas vraiment mon élément, mais je comprends. Mais du coup, j'ai une question, la planche, d'accord? J'ai fait du skate.
Ok.
Ce qui n'a rien à voir, d'accord? Okay. J'ai fait un peu de comment on appelle ça, surf des neiges, bref. Qui n'a rien à voir.
Le surf des neiges.
Le snowboard.
Le snowboard.
Voilà. Comment tu fais pour tenir sur cette planche? Parce que moi, ça m'impressionne le fait que, tu vois, alors je vous explique, on est vautré sur la planche, là on clapotille avec les bras,
le
on commence à voir la jolie vague là,
exact.
Et puis on la prend et hop, tac, on se met debout. Déjà, c'est un truc complètement fou. Comment on fait tout ça?
Alors ça, c'est une question d'opportunité, mais encore une fois, quand tu commences en surf, tu n'as pas un bon curseur au début d'observation pour savoir à quel moment il faut que tu te lèves ou pas. Donc ça, c'est vraiment la pratique. C'est à force de pratique que tu vas commencer à jauger en fait le bon timing pour te mettre debout. La planche, généralement, comme je l'ai dit, il faut vraiment avoir... Alors, c'est pas grave si tu l'as pas au début, parce que ça se développe. Mais en fait, tout tient au niveau de ton, du côté supérieur en fait de ton corps en fait. Donc biceps,
alors que moi,
triceps,
je crois que c'était
avant-bras.
Les jambes, tu vois, pas quand tu fais du
non,
skate.
Tu dois
tu
avoir,
avec les jambes,
mais tu dois avoir de la force en fait au niveau des jambes parce que c'est ce qui va te permettre de te tenir debout en fait, vraiment de te relever. En revanche, tu rames comment? Tu n'as pas ramé avec tes pieds, donc tu rames avec tes bras. Donc il faut vraiment biceps, triceps, avant-bras, beaucoup de gainage. Alors il faut savoir que le surf, l'avantage c'est que tu gagnes en abdos sans faire des, je vais pas dire sans faire d'efforts, mais sans souffrir. C'est-à-dire que tu ne constates pas en fait que tu es en train de faire un effort. Donc tu es souvent en position de gainage. Quand tu te lèves, en fait, tu es en position de gainage. Donc il faut avoir cette, cette force-là où à minima, en fait, on va finir par la développer petit à petit. Et le curseur, en fait, pour savoir à quel moment il faut se lever ou pas, c'est une question de pratique. Moi, en tout cas, je ne l'avais pas au début.
Oui,
il y a des, gens en fait qui peuvent l'avoir.
Ah oui, d'instinct comme ça.
Oui, c'est possible en fait. C'est vraiment, ils arrivent à savoir à quel moment en fait ils doivent se mettre debout. C'est plus une, je dirais que c'est plus des observateurs, de meilleurs observateurs certainement. Mais la pratique est vraiment au bout de 10 séances, de 1 heure, c'est réglé. Après, tu as un bon niveau débutant. Tu n'es toujours pas un expert, mais tu as un bon niveau débutant.
Et j'ai une dernière question avant de rentrer dans les questions habituelles qu'Élodie sans doute se pose. Combien de licenciés, tout ça, tout ça. La sensation de glisse.
Elle est
magnifique.
Est-ce
que tu arrives à la décrire? Parce qu'en fait, c'est ça que j'arrive
mais
pas à comprendre,
fait,
que j'ai jamais vécu.
Je pourrais pas vraiment te la décrire. Je pourrais pas en fait y trouver des adjectifs, mais il y a toujours cette sensation de liberté, d'être seul au monde, d'être... d'être dans un... En fait, c'est intemporel, tu perds la notion de l'espace-temps.
D'accord.
Véritablement, en fait, c'est ça, t'as l'impression d'être dans un autre univers. Et je t'ai dit, il y a vraiment un lien intime que tu ne retrouveras pas. J'ai pas testé tous les sports du monde, j'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai jamais pu retrouver, en fait, ce lien ailleurs, dans un autre sport, où t'as vraiment solitude, perte de l'espace-temps. Ça glisse super bien, donc ça dépend aussi des vagues, ça dépend de ta technique, ça dépend si t'es un expert, ça dépend beaucoup de choses, de ton niveau. Mais je dirais que c'est un beau moment à passer avec soi-même si on a envie de se rencontrer.
Ouais, ce que j'ai
en
dit,
fait, tu pars vraiment à la rencontre de toi-même. Alors oui, moi à ce moment-là j'avais 13-14 ans, mais j'allais déjà à la rencontre de moi-même à ce moment-là. Mais c'est intéressant pour faire de l'introspection, oui, c'est clair.
Excellent.
Et d'être reconnaissant aussi de ce qu'on a, de la
bien.
Nature, vraiment.
Bien. Oui, c'est vrai, parce que s'il n'y a pas la mer, il n'y a pas de
sable. S'il n'y a pas la mer, il y a le sable. Hein. tu
voilà,
vas aller faire du...
soyons reconnaissants qu'il y a au moins l'eau, quoi, minimum. Excellent. Eh bien, pour les origines du surf, mesdames et messieurs, un peu de culture. Et il faut savoir qu'on a retrouvé, je ne m'y attendais pas celle-là, des origines pré-Inca. Eh oui, en Amérique du Sud, il y a des vestiges et des choses. Notamment, ils construisent des bateaux en roseau, qui sont encore utilisés aujourd'hui, et des planches sur lesquelles ils allaient pêcher.
Sympa.
À Hawaï, les... Première trace du surf hawaïen remonte en 1769, avant la Révolution, c'est long. le marin britannique James Cook aurait été le premier à avoir vu un surfeur aux îles Sandwich. Ça me donne faim. toutefois, Cook ayant été tué peu après cette découverte, est-ce lié? Est-ce un complot? Je ne sais pas, je vous laisse juger. C'est finalement le lieutenant James King qui fut le premier à écrire dans le journal de bord un passage concernant la pratique du surf. Et ce qui est fou, c'est qu'apparemment, ça servait de règlement de compte entre chefs de tribu. Plus tu avais une grande planche, plus tu savais faire du surf, plus tu étais haut dans l'échelle sociale.
Okay.
Et ils pouvaient se faire des combats de surf.
Ah bon ?
De fou, je te jure, c'est un truc de ouf. Okay. Je suis tombé dessus, je suis assez choqué. Je me suis dit, ah ouais, ça serait comme ça. Il n'y a pas de Shifumi, c'est toi et moi sur une planche demain.
mais je trouve ça hyper sympa. Hein.
C'est génial comme idée, tu vois. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et donc, effectivement, des grandes planches de bois qui faisaient carrément. Alors, toi qui en as fait, je te poserai la question après, et vous le saurez, combien est une moyenne une planche de surf ? 5 mètres. Ils ont des planches de 5 mètres, c'est énorme.
C'est beaucoup trop. Ouais.
C'est beaucoup, beaucoup trop. Alors aujourd'hui en France, il existe bien une fédération française des surfs. Et il faut savoir que dans les années 50, grâce à un cinéaste américain, on a ramené dans la côte basque, au Pays basque justement, à Biarritz, le surf qui n'existait pas en France.
Ouais.
Et dans les années 50, il y a un collectif qui s'est appelé les Tontons Surfeurs, qui faisait du surf, qui était chassé par la police.
Okay.
Parce que nous en France on est toujours comme ça, voilà, il y a un nouveau truc, ouais, c'est des jeunes, ah, non, c'est pas bien. Chassé par la police à Biarritz, et ce collectif en fait était soupçonné de gêner la baignade.
Ah,
et c'est comme ça en fait que Biarritz est devenu un spot légendaire, parce que le spot
absolument,
s'y prêtait de
absolument.
Fou, et qu'effectivement le cinéaste dans ses valises avait ramené le surf avec lui, et les Français ont dit, les jeunes de l'époque, waouh, c'est trop fou, c'est trop génial. Et donc la Fédération Française de surf existe depuis 1967, si je dis pas de bêtises. Et ma question va être la suivante, ma chère. Attention, nous sommes donc à 1964, pardon. Environ combien de licenciés aujourd'hui penses-tu qu'il y a en France?
Pour ceux qu'il y a en France?
Non, en France, juste en France.
Honnêtement, je sais pas. Tu veux que je te donne une fourchette ?
Ouais, tu peux.
J'en sais rien, je vais te donner une fourchette complètement absurde.
Vas-y.
Je sais pas, 1000
entre plus 1000 de 60 000 licenciés, bravo, voilà. tu es dans les pas d'Élodie, ça j'aime beaucoup. D'après toi, combien de clubs ? Il faut savoir qu'il y a des clubs en Bretagne.
Des clubs.
Écoute bien, il y a des clubs en Bretagne, j'y attendais pas, en PACA, au Pays Basque. Il y a même à Paris des clubs, parce qu'ils font le voyage pour aller.
Ah oui,
clubs,
oui, en fait, oui pour, aller, pour aller en fait à voilà. Biarritz généralement. Ou,
exactement.
Okay, voilà.
Tu as du Rouen et tu as même des clubs, attends, ça m'a choqué, ça c'était fou, vers Lausanne et Lyon.
En club
En France, comme ça, allez.
Honnêtement, je dirais, à la louche, je dirais peut-être entre 20 et 30.
152 clubs.
Mais c'est énorme.
C'est mon moment préféré, mesdames et messieurs.
Non, mais c'est absolument énorme. J'ai vachement sous-estimé.
152 clubs. Ah oui, c'est ouf. Alors, okay. Si vous voulez pratiquer du surf, sachez que ça coûte la licence en elle-même. Pour être licencié à la Fédération Française de Surf, c'est 45 euros par an, ça va. Par contre, l'école de surf, là, on monte entre 120 et 200 euros, parce que si vous pouvez faire effectivement solitaire. Mais il faut quand même avant faire des stages, notamment un stage de 5 jours découvert, 2 heures par jour, qui sont à peu près à 200 euros pour vous apprendre à faire du surf en sécurité, parce que ça reste un sport, on l'a pas dit, mais... Il y a la noyade. Moi, j'en sais quelque chose.
Il n'y a pas que la noyade.
Voilà, parce que moi, je suis champion de noyade à Colombes 92 en 1991, exactement. Noyé dans le petit bain, sachez-le. L'adhésion annuelle au club, elle varie selon le club que tu vas, les infrastructures, voilà, à 20-200 euros. La moyenne d'une planche de surf, c'est 2,10 m à 2,40 m. Donc, les Hawaïens qui faisaient des combats sur 5 mètres.
Sur 5 mètres, moi, je ne vois pas comment, hein, mais ce serait intéressant, en fait, de regarder, de lire un petit peu comment ils faisaient.
Et il existe effectivement plusieurs types de planches qui sont au format. Donc, il y a la fiche, la short board qui est la plus connue et celle qu'on utilise dans les tournois et notamment aux JO, l'hybride, le funboard, le longboard, la mousse aussi. Il faut savoir que depuis les JO de Tokyo, c'est au programme des Jeux Olympiques. Et l'année dernière, on a eu l'or pour les hommes avec Kaoli Vast, et Johanna Defay chez les filles a gagné le bronze. Comme quoi, en France, encore une fois, tu vois, c'est 152 clubs, c'est pas usurpé.
Ouais, 152 clubs, mais quand même un sport qui a mis du temps avant d'être intégré au JO. Hein.
Ah bah
je
oui.
crois qu'il y avait la pétanque avant le surf, hein, il me semble. Pour pas dire de bêtises.
Je savais pas que la pétanque était passée au JO.
Si, il me semble. Hein.
Bon, en tout cas, le surf, c'est 2021. C'est
ouais, mais c'est très tardivement.
Très tardivement, mais effectivement, et puis en vérité, on oublie souvent, mais dédicace à eux, la Réunion... La Polynésie française, Madagascar, tout ça. Même si vous allez en Guadeloupe, les îles, il ne faut pas oublier que nos territoires d'outre-mer, bah, on peut faire du surf.
Absolument.
Voilà. Parce qu'ils ont les infrastructures Nouvelle-Calédonie en plein face de Nouvelle-Zélande. Voilà. Ça va, ça se passe bien ?
Très bien. J'étais en train justement d'avoir des
flashs.
Exactement, des rétrospections en fait, où j'essayais de me souvenir comment j'étais à ce moment-là.
Bah, je pense que tu avais des cheveux.
J'avais des cheveux, mais surtout j'avais des abdos.
Oh !
Et oui !
Ah, c'est ça l'introspection, l'alarme.
C'était l'alarme.
Ok, c'est l'alarme de l'œil droit. Eh bien, du coup, il est 19h18, c'est le moment de la pause musicale. Maestro, musique.
Cuatro días caminando, mil senderos por andar, hasta llegar a la casa donde duerme el bien amar. Cuatro noches o soñando que despierto en mi celeste con ventana de San Juan.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à nouveau auditeurs, auditrices, j'ai toujours Cad, l'homme du 92, nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1, vous êtes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. On vient d'écouter Eric Hilton et Natalia Clavier, la sœur d'Ahmed Mandoline, le célèbre, et c'était le morceau Amor Astral que tu as choisi.
Exactement.
Et en vrai de vrai, j'aime beaucoup parce que ouais. Ça va très bien avec le côté je fais du surf, je suis sur la plage, je suis dans le haut, tu vois. C'est vraiment bien. C'est excellent, très bon choix.
Bah, merci beaucoup, merci à Eric. Ouais. Et à Natalia surtout.
Natalia Clavier.
Exactement.
Très important. Et aujourd'hui, bien sûr, je ne suis pas seulement Cad, je suis Cad alias Kalilnoui. Ça veut dire le petit gros.
Quoi?
En hawaïen. Non, je te jure.
Attends, mais t'es...
Bah attends, je vais vérifier, je vais mes sources, attends, je crois.
T'es allé faire une traduction de petit gros en hawaïen.
Bien sûr. Attends, c'est important. Et on va demander maintenant à Camélia, la reine du goûter tartiné à base de confiture avec le caractère de Jacques Vergès, comment ça va?
Attends, t'as mis goûter tartiné avec Jacques Vergès?
Bien sûr, dans la même phrase.
Dans la même phrase. Ouais. Écoute, ça va très bien, ça me fait très plaisir d'être avec toi ici, de traiter d'un sujet qui est vachement intéressant et pour lequel j'espère donner des informations pertinentes pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure de surf.
Et donner envie aux gens de... Il n'y a pas un terme pour dire tâter de la planche spécial surf?
Tâter de la planche, non, je ne sais pas. Prendre, découvrir la mousse, je ne sais pas.
Ah, découvrir la mousse, ouais, bien. La mousse, ouais. Bien, parce que la mousse, c'est une
pas
forme
la bière,
de planche.
Hein.
Oui, non, mais la planche, mesdames et messieurs, la planche, bien sûr. Alors, du coup, on est encore ensemble pendant quelques minutes et nous allons donc parler cette fois-ci de notre légende de la semaine, Stephanie Gilmore. Évidemment, avant, j'avais envie de faire quelques anecdotes sur le surf pour vous démontrer que c'est un sport de fou et c'est pas un sport facile.
Ah oui.
Donc, il faut savoir que tu as choisi cette surfeuse pas pour rien, on va en parler juste après, mais je vais donner 2-3 exemples. Par exemple, en 2011, la surfeuse américaine Bethany Hamilton, qui a perdu un bras après une attaque de requin, a continué sa carrière au plus haut niveau et a remporté des compétitions.
C'est tout à fait possible. Alors elle doit être en mode gainage à fond, hein, parce que pour pouvoir se lever, se tenir debout sans ses deux bras, c'est que vraiment...
Un bras morsure oui. De requin, il n'y a pas de problème, je suis présent, rien à faire. En 2015, le Sud-Africain Mike Flaming a été attaqué en direct à la télé par un requin lors de la finale du JB Open en Afrique du Sud. Il a réussi à s'en sortir indemne. Donc il y a quand même un délire avec les noyades, les requins.
Les noyades, les requins et les collisions avec ta planche.
Ah oui, avec la tête, les rochers. Ah, les rochers aussi.
Les rochers, les collisions, attention. En fait, ta planche, elle peut carrément, en fait, ça peut être l'effet d'un coup de couteau. Hein. Donc ça peut, ta propre planche peut te faire excessivement mal. C'est une collision entre le surfeur lui-même et sa propre planche, parce que l'effet de la vague, qui est trop puissante, va en fait amener, orienter la planche en fait, vers lui.
Ouais.
Et la planche est très lourde.
Oui.
Elle est vraiment très lourde. Et ça peut faire très mal.
Ah purée, j'avais pas pensé à ça. Parce que moi, je sais que maintenant, on a une leash.
Oui, c'est un leash.
C'est ce qui s'appelle une laisse en français, qui accroche la cheville du surfeur à la planche pour que la planche elle parte n'importe où.
Effectivement, tu l'installes le leash. Après, il y en a beaucoup qui l'enlèvent. Ça dépend. Ouais. Ça dépend en fait du confort et du niveau d'expertise de chacun. Il y en a qui ont une certaine confiance au bout d'un certain temps et qui s'aventurent. C'est un peu les surfeurs de l'extrême ou les surfeuses de l'extrême. Mais tu as cette possibilité-là, en fait, qu'il y ait une collision avec ta propre planche. Ou la planche de quelqu'un d'autre.
Oui,
faut pas oublier qu'il y a d'autres gens qui surfent à côté.
Oui,
hein.
Moi je parlais en compétition là, mais effectivement, si tu surfes et que tu es sur un spot, il y a plusieurs surfeurs.
Oui.
Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, le surf c'est pas n'importe quoi et Stephanie Gilmore c'est pas n'importe qui. D'accord. Australienne, née le 29 janvier 1988, 37 ans. Elle a débuté sa carrière en 2007. Certains n'étaient pas nés. Eh ouais. 1m78, 67 kilos et elle a des records de ouf. Est-ce que tu veux en parler maintenant? Mais ou est-ce que je lâche les records et t'en parles après?
Non, lâche les records.
D'accord. Alors, première chose, il faut savoir qu'elle a un palmarès de 28 victoires, dont 17 en World Champion Tour. C'est une des plus grosses compétitions de surf. Mais surtout, elle est 8 fois championne.
Ouais.
8 fois championne du monde, c'est le record.
C'est le record.
C'est le record. Il n'y a personne qui est au-dessus.
Personne n'est au-dessus et je ne suis même pas certaine, en fait, qui... Alors, je le souhaite aux prochaines générations de surfeuses, hein, mais je pense qu'on va avoir du mal pour la décennie suivante de trouver quelqu'un qui est du niveau, en fait, de Stéphanie.
Et elle a aussi record absolu féminin. Elle a aussi le record de rookie. 2007, première année, elle est championne. Voilà. Elle a fini sa carrière cette année en 2025. Et d'ailleurs, c'est très joli pour la petite histoire. Elle a fini sa carrière en même temps que sa plus grande rivale. Ils ont pris leur retraite en même temps. Je trouve ça trop mignon. Et d'ailleurs, une rivalité très saine qu'elles avaient entre les filles, ce qui est très cool. Et donc, effectivement, elle a un record fabuleux. 8 fois championne. J'en ai jamais entendu parler. Tu vois, autant Kelly Slater chez les mecs, je connaissais, je savais c'était qui.
Oui.
Mais elle, depuis 2007, j'ai jamais entendu parler de cette fille alors qu'elle a un palmarès de ouf. Vas-y, je t'en prie, enchaîne.
Après, je pense que Kelly Slater, on le connaît davantage parce qu'il y a eu pas mal de productions audiovisuelles à son sujet, des documentaires. Il a aussi été l'égérie de pas mal de marques assez populaires à l'époque. Il y a aussi toute la fanbase de Kelly Slater, parce que c'était un homme qui était assez charmant. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment connu, même pour les profanes ou les non-sachants en surf qui n'ont pas d'intérêt pour ce sport, ont connu Kelly Slater à travers ça. Mais aujourd'hui, quand tu interroges les gens, très peu vont te nommer, allez, on va dire, trois personnes, trois surfeurs ou surfeuses très réputés. Alors qu'aujourd'hui, moi, tu peux me poser la question sur le basket, je pourrais t'en donner, allez, trois, tu vois. Ah, et je ne regarde pas de basket spécialement, je n'ai pas un grand intérêt. Donc, en féminin, c'était un peu plus compliqué de les faire reconnaître, mais un peu moins aujourd'hui. En tout cas, les 10 dernières années, beaucoup moins. Mais Stéphanie Gilmore, dans le milieu du surf, est très, très, très populaire.
Justement.
Mondialement. Il y a, peut-être en France, on n'a pas cette culture, en fait, si tu veux, de surf. Et pourtant, il y a des spots, en fait, qui existent en France qui sont absolument incroyables. Mais tu sors un petit peu, tu vas dans des spots de surf ou ailleurs, en Australie, à Hawaï. Les gens connaissent Stéphanie Gilmore. Enfin, c'est juste pas possible de pas la connaître.
Ouais, parce que c'est la
meilleure.
C'est
la meilleure. En fait, elle a vraiment dépassé tout le monde. Elle a un très bon niveau. Ouais. En plus d'être connue pour être une personne excessivement accessible, très gentille, très humaine. Donc, il n'y a pas que le côté surfeur technique qu'on retient d'elle. On retient aussi, en fait, sa personnalité. Donc, elle est très avenante, très accessible. Ouais. C'est pas quelqu'un, en fait, qui est inaccessible ou qui fait la star. Hein. Elle est très simple.
Oui, et en plus, ce qui est fou avec elle, c'est que bah, déjà, elle a un palmarès de fracassé, mais après, je suis complètement d'accord avec toi. Généralement, quand dans des sports de niche, parce que c'est un sport de niche, elle doit être connue sur tout le monde qui fait du surf. Ah, par contre, tu vois, c'est là où, encore une fois, j'aime bien cette émission, c'est qu'un Kelly Slater, il a dépassé son sport parce que sans doute c'est un mec et c'est plus facile de vendre des trucs avec un mec, tandis qu'elle, c'est arrivé après, même si elle a été gérée pour Rip Curl, par exemple, tu vois.
Complètement.
Donc elle a été gérée pour des grosses marques, mais elle a été moins mise en avant, pardon, sans doute parce que c'est une fille, tu vois.
Moins de visibilité, de manière générale, il y a moins de visibilité pour ce sport comparé aux autres, voilà. Il y a encore moins de visibilité en fait quand c'est des surfeuses, en fait des femmes qui surfent. Je connais pas encore le rapport, combien ça rapporte d'argent en fait de sponsoriser par exemple ces femmes-là. Est-ce que ça rapporte plus pour les surfeuses féminines ou pour les surfeurs masculins? C'est un peu comme le foot masculin est bien plus populaire que le foot féminin. J'ai pas les chiffres là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas un sport qui, de manière générale, est convoité par les gens. Certainement parce qu'il est quand même assez inaccessible, on va pas se mentir.
Bah, faut la mer.
Exactement. Alors qu'un foot, tu prends un ballon, tu sors, voilà. Ouais. Il faut des conditions géographiques assez spécifiques. Donc, déjà, il est pas visibilisé de manière générale. Et il l'est encore moins, en fait, quand il s'agit de femmes. Maintenant, ça va beaucoup mieux.
Oui,
grâce
clairement.
À Stéphanie,
c'est
parce qu'elle a tellement,
venir.
Elle a
la
tellement.
Transition, j'adore. Vas-y, continue.
Non mais grâce à Stéphanie, elle a tellement eu des records absolument extraordinaires. Aujourd'hui, imbattables selon moi. Pour le moment, c'est imbattable. Que si tu veux, elle a un peu ouvert cette porte aux gens, aux jeunes femmes, ou plutôt aux jeunes filles, parce qu'on le commence assez tôt généralement le surf, pour s'initier à ce sport-là.
Ah, mais d'ailleurs, j'ai une de ses déclarations, elle le dit elle-même. « Je veux que les jeunes filles sachent que le surf est un terrain de jeu pour elles aussi. Chaque vague est différente, chaque océan est vivant. C'est ce qui m'inspire à continuer.
Voilà. »
Tu vois, on est dans ce que tu disais tout à l'heure. Et après sa 7e couronne en 2018, qui n'est pas sa dernière, mais elle égale justement la femme qui avait fait le plus de titres, c'était 7 exactement. Elle dit « C'est plus qu'un titre, c'est la preuve que l'on peut toujours avancer, même après les blessures et les doutes. »
Absolument.
Blessures et tout. Mais effectivement, comme tu dis, elle a beaucoup milité pour que les filles aient accès au surf. Tu
oui,
vois.
Absolument.
Et sur les réseaux sociaux aussi, j'ai vu, elle poste des petits trucs.
Elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Elle a une bonne communauté fanbase, je trouve, Stéphanie.
Et toi, tu l'as découvert comment, en fait?
Je sais plus comment je l'ai découverte, mais en fait, moi, à la base, je regardais des vidéos de surf un peu comme tout le monde. Je traînais un peu sur Reddit ou un petit peu sur YouTube. Et en fait, au fur et à mesure, t'as des algorithmes en fait, qui s'affichent et tu découvres Stéphanie Gilmore. Voilà, je pense que je l'ai découverte comme ça. Hein, ou alors sur les réseaux sociaux, pareil, on a des recommandations. Voilà, tu cliques, tu regardes, tu checks 2-3 vidéos, tu regardes qui est la personne. Je me suis un petit peu intéressée à elle de cette façon-là, mais vraiment par hasard, par technologie.
Après, pour les anecdotes sportives la concernant, eh ben en 2010, ça c'est fou, hein, elle a été victime d'une agression armée devant chez elle en Australie, parce qu'elle est australienne. Elle a failli tout arrêter, mais elle est revenue encore plus forte. Déjà, tu sens le mental. Je me fais agresser chez moi, armée, machin, je m'en fiche, je veux mes titres, je lâche pas l'affaire. Elle est très engagée donc dans la promotion du surf féminin, elle milite pour l'égalité des prize money, on en parlait tout à l'heure. Donc évidemment, on en parle souvent dans ces émissions, mais quand vous faites des tournois ou des championnats, le cash prize, donc l'argent qu'on va vous donner, qui dépend des droits TV, qui dépend des sponsors, qui dépend plein de choses, bah parfois, les filles et les garçons, c'est pas égalitaire. Là, récemment, on a eu Megan Rapinoe, dont on avait parlé l'année dernière, enfin, dans la saison 1, qui a réussi à militer pour que les footballeuses aient les mêmes cash prize aux USA. Les Anglaises le font, etc. Mais c'est pas toujours le temps le cas. Donc, elle a milité pour ça. Et elle a réussi à l'acquérir en 2019. C'est pas vieux. Mais elle a réussi. En 2019, maintenant, le plus gros tournoi, bah, c'est le même cash prize. T'es un garçon, une fille, tu gagnes pareil, l'égalité. Puisque, en fait, on prend les mêmes risques.
Absolument. Bah alors là, pour dire qu'on prend les mêmes risques, on prend vraiment les mêmes risques. Et surtout, il y en a pas un qui est plus fort que l'autre parce qu'on a plus de testostérone ou quoi. C'est la même vague. En fait, c'est exactement les mêmes risques. Donc s'il y a un requin, il y a un requin pour les deux. Hein. On n'aura pas un qui va choisir l'autre. Hein. C'est
Je sais pas. Elle a l'air plus dodue, la dame, à côté.
Et voilà. Donc oui, non, ça c'est une bonne nouvelle.
Voilà, donc ça c'est cool. Alors modèle ambassadrice, on l'a dit, Rip Curl, Roxy, Audi aussi, elle a fait des pubs pour Audi. Donc elle continue à utiliser son image authentique. Ça, c'est j'ai bien aimé parce que j'ai regardé. Alors vous regarderez quand vous tapez son nom, donc effectivement Stéphanie Gilmore, il n'y a pas de photo racoleuse. Tu vois ce que j'ai ?
Pas du tout, ni paillettes, ni superficielle. Voilà. Je t'ai dit, c'est quelqu'un de très accessible, de très simple, et c'est un petit peu à l'image en fait de ce sport aussi, hein. Parce que c'est un sport qui reste quand même assez, on va dire assez naturel. T'es à part avoir une combinaison, un maillot de bain, enfin, quand t'y vas vraiment pour surfer et rien d'autre. Donc elle, c'est vrai, elle est un petit peu l'archétype de la surfeuse classique, blonde, bronzée, tu vois. Donc non, elle est, en tout cas, les gens la décrivent comme quelqu'un d'absolument merveilleux.
Ouais, mais en vrai, j'en doute pas, ça se voit, parce que déjà, quand tu te fais agresser, tu te fais agresser chez toi devant ton domicile, et tu te dis vas-y, je vais continuer. C'est pas n'importe qui le ferait déjà. Donc effectivement, beaucoup d'engagement pour la parité homme-femme dans le surf, ce qu'elle a obtenu. Ambassadrice aussi de la protection des océans. Elle fait des campagnes pour la préservation des récifs coralliens. Alors, vous remarquerez que comme dans la saison 1, parfois je mange mes mots et j'ai envie de dire voilà. Tout va bien, vous inquiétez pas. Elle est élue surfeuse de l'année à plusieurs reprises par l'Australian Surfing Award. Elle est intronisée au Surfer Hall of Fame de Californie en 2010. Donc son nom restera, c'est sûr. Reconnue comme l'une des meilleures surfeuses de tous les temps. Voilà. Ouais. On a dit que c'était la Serena Williams de son sport.
C'est exactement ça. Si tu devais vraiment la comparer, pour les gens qui ne connaissent pas le surf, on prend Serena Williams et on la met côté surf, c'est pareil.
C'est-à-dire,
c'est une pointure, hein. C'est vraiment une pointure.
Et je suis très content que tu l'aies proposé parce que je ne connaissais pas cette surfeuse, elle est vraiment pour le coup très bien. Il te reste encore une minute, tu peux dire ce que tu veux sur Stéphanie Gilmore. Est-ce qu'elle t'a inspiré? Qu'est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose? Tu vois un petit lien,
Un petit lien? Alors je ne sais pas si elle m'a inspiré, enfin elle m'a inspiré peut-être à reprendre le surf que je n'ai pas fait depuis très longtemps et avoir des abdos en béton.
Les abdos.
Exactement, moi je pense aux abdos et justement biceps, triceps, avant-bras, tu vois, j'oublie pas ce truc. Non, je dirais que le fait qu'elle ait une attitude très simple et qu'elle bat tous les records te motive à pratiquer ce sport qui, a priori, a l'air très dangereux, très imprévisible aussi. On en discutera peut-être plus tard, mais il est très imprévisible, ce sport-là. Et en tant que femme, justement, de pouvoir le pratiquer avec une concurrence quand même assez difficile, parce que chez les hommes, des surfeurs, il y en a énormément et des connus. Il y a des pointures, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup, en tout cas, depuis les années 70 même. Depuis les années 70 jusqu'à maintenant, il y en a toujours. Et elle te donne envie de... Au regard de son caractère, de ce qu'elle a pu gagner, de sa résistance, elle te donne envie vraiment de t'impliquer, mais avec passion. Pas simplement un genre de hobby que tu fais aller une fois toutes les deux semaines. Elle t'impulse en fait une passion pour ce sport, une curiosité pour ce sport et de le pratiquer vraiment avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Parce que c'est pas simplement l'amour du sport, c'est aussi l'amour de tout ce qui environne ce sport.
Nature.
Tout ce qui est environnant à ce sport-là, donc tout ce qui est accessoire mais assez important. Donc moi c'est un sport que je recommanderais. Si, bien sûr, vous avez la possibilité de le faire, hein, parce que vous n'avez pas à faire à Paris.
Oui, si vous avez la possibilité d'être dans un endroit où vous pouvez en faire, on est bien d'accord,
voilà,
ne vous inquiétez pas. Eh bien, sur ces belles paroles de passion, d'amour, de nature, d'océan, et dédicace à la petite sirène, bien sûr, des bisous. Ariel nous écoute, elle nous écoute chaque semaine. Bon. Eh bien, sur ce, musique maestro. Keep on running back to you. See my days are cold without you. Oh, I'm hurting.
always tell me that you need me. And I'm weak cause I believe you. And I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same. That you ain't never gonna change. Never gonna change. Never gonna change.
Écoutez Allegre FM 93.1.
Bonjour à nouveau auditrices auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1. Je suis Cad, l'homme du 92. T'as vu, c'était bien avec le petit violon et tout. Hein,
ouais, j'aime beaucoup.
Vous êtes bien dans l'émission championne. On vient d'écouter Ashanti Foolish. Vous, pour m'accompagner, j'ai toujours Camélia. Et non, jamais de sobriquet pour la troisième partie. C'est bien la règle. Elle est toujours en place. Elle n'a pas bougé. Maintenant, nous allons parler de manière libre de la dangerosité du sport en général. Et déjà, on va parler du surf. Alors, je le rappelle, en 2011, la surfeuse américaine Bethany Hamilton, qui a perdu un bras après une attaque de requin, a continué sa carrière au plus haut niveau et a remporté des compétitions. Donc le surf, c'est dangereux à cause des noyades, des attaques de requins, les collisions avec les rochers ou les planches. Et donc on a mis en place, effectivement, on en parlait tout à l'heure, la liche, donc cette laisse que tu as à la cheville. Oui, c'est une laisse.
En fait, c'est assez marrant de le dire en français, je trouve, mais effectivement, oui, c'est une laisse. C'est une petite corde, en fait. Moi, j'appelle ça plutôt des cordes, mais oui, t'as une petite corde qui est liée à ta planche.
On peut dire une corde.
Une corde.
Une corde. Une corde. Donc, t'as ça, effectivement, pour que le surfeur soit relié à sa planche. Donc, ça réduit aussi le risque de se perdre, parce que si la planche part à droite et toi à gauche...
Surtout, faut pas oublier, ça réduit le risque de perdre sa planche dans l'eau et de repayer une somme monumentale pour la racheter.
J'ai regardé, et sachez qu'une planche de surf pour débutants, c'est 180 euros à Décathlon et ça peut aller jusqu'à 15 000 euros. Voilà.
Oui, ça peut, ouais. Mais 15 000 euros, c'est les modèles de luxe quand même, hein, de grand luxe.
Ah bah, c'est
les
modèles de
luxe. Mais généralement, il faut compter entre 1 000 et 2 000.
J'ai vu qu'ils avaient fabriqué des gilets gonflables chez Quicksilver, carrément, pour le surf de grosses vagues. C'est-à-dire que tu as des gilets. Pff,
et après,
tu flottes sur 3 mètres. Ça a l'air fou. Et surtout, la dernière technologie dont je voulais parler, après, je te laisse parler des risques un peu plus, parce que toi, tu l'as un peu plus vécu que moi. Le bracelet anti-requin.
Mais c'est exactement ça, en fait.
C'est
que
une folie, ça.
Moi, j'ai trouvé que c'était incroyable, ça.
Émission de champ électrique répulsif, le requin, il s'en va. Ouais. Le requin, il arrive, il fait vous êtes bien lodu. Et puis après, ah bah non, je m'en vais.
Après, alors, excuse-moi d'émettre des doutes. Mais je suis un peu sceptique par rapport à l'efficacité en fait de ce petit outil objet que les surfeurs peuvent s'acheter en fait.
Mais moi je suis sûr que ça marche.
Ah oui.
Bah oui.
Je sais pas. T'as déjà essayé?
Ouais, j'ai essayé la semaine dernière un bracelet anti-facho, ça a marché.
on lâchait tout.
Attends,
mais on lâchait tout.
On peut l'acheter au bureau de tabac. Après, dit comme ça, peut-être je vais me faire arnaquer. Mais donc, ouais, le bracelet anti-requin, mais si le mettre, je pense que ça doit fonctionner. Alors, est-ce que ça fonctionne 100%? Je t'accorde, peut-être pas, mais ça doit fonctionner un minimum.
Ah, c'est un requin facho. Est-ce qu'ils l'ont testé sur tout type de requin, tu vois?
L'ont testé sur tout type de surfeur? C'est ça la vraie question. Parce qu'après tout, le grand requin blanc, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter sur le surf? Si après, j'ai un autre.
Par rapport à la dangerosité du sport, bah en fait, tu peux avoir aussi des conditions météo qui sont assez imprévisibles. Parce que, peut-être que la veille, tu as vérifié la météo, toutes les conditions sont bonnes, mais c'est la nature, c'est la nature. Hein. Parfois, on ne peut pas la dompter. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Donc oui, il peut y avoir surtout les vents, en fait. Il peut y avoir des vents qui tapent très, très fort. Et là, pour le coup... tu vas t'envoler, toi et ta planche.
Ouais.
Toi et ton outil anti-requin. En fait, tu n'auras plus de réseau sur cet outil-là.
Toi et ton gilet gonflable.
Exactement. Toi... Donc, moi, je dirais plutôt... c'est imprévisible parce que les conditions météo, tu peux bien sûr aller à 95%, t'en es sûr. 99%, t'en es sûr. Mais parfois, tu peux avoir des grandes surprises.
Ouais. Oui, parce que la mer, c'est comme on dit, c'est l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, mais c'est changeant.
Exactement, et puis tu as aussi parfois des vagues qui sont très hautes.
C'est elle, dire.
Très, 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 elles font la taille, enfin là, là on est sur une hauteur de ton immeuble. Hein.
Ouais, ouais, bah
donc
oui.
Ça existe. On
du
est
20
sur
25 mètres facile.
20, 25 mètres jusqu'à 30 mètres. Ça ouais, dépend. Il y a des régions où, où ça peut atteindre vraiment jusqu'à 26, 28. Et il y a des surfeurs de l'extrême qui s'y aventurent. Là pour le coup, tu peux avoir toutes les laisses du monde. Hein. Tu peux avoir multi-laisses, une planche multi-laisses. Hein. Là, si la vague t'engloutit, au revoir.
Bah oui.
C'est... Mais ils prennent ce risque-là. Et ça, c'est des passionnés.
Eh ben, je reciterai à nouveau. Nous sommes dans les années 90. Point Break, madame. Point Break. Patrick Swayze, Keanu Reeves, un braquage des surfeurs. Et Patrick Swayze, il recherche la vague.
La
celle
vague.
De tant de mètres, effectivement. Oui, ça, t'as ça, effectivement, les rouleaux. Qui, quand tu es pris,
ah,
alors
oui,
vous
rouleaux,
êtes dans la vague, vous faites votre petit rouleau, bien sûr, vous êtes là, vous surfez, le rouleau se ferme sur vous, la vague se ferme sur vous, elle tombe sur vous, et là vous êtes emporté dans le,
oui, emporté,
dans,
ouais.
le, dans la houle. Alors moi j'ai entendu des spécialistes dire qu'il ne faut pas se débattre, il faut se laisser emporter, mais moi je déteste l'eau, je me noie, moi, je fais un truc comme voilà.
En fait c'est ta vitesse aussi qui va faire que tu vas rester au bout du rouleau, du coup, c'est bizarre à dire. Mais...
François Bérou, dédicace.
En fait, le but, c'est vraiment de rester au bout de ce rouleau-là de vagues, de mousse. Mais c'est vrai que si tu as commencé le rouleau en étant au milieu, tu peux être sûr que tu vas te faire engloutir, en fait. Mmh. Et généralement, c'est... Alors moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir des belles vagues comme ça, où il y a vraiment un beau rouleau, mais j'en ai beaucoup vu. Ça doit être relativement stressant d'être au milieu du rouleau.
Bah ouais.
Ou alors d'être au bout et de commencer à voir le rouleau en fait avancer et en train de t'engloutir petit à petit. Et je me demande le niveau d'anxiété en fait que ça a, sachant que c'est un sport qui est censé te retirer ton anxiété. Et là, tu vois, il y a un effet
mais moi, tu me mets dans
de,
le rouleau,
de crainte.
Je panique direct. C'est-à-dire que quand je vois le rouleau qui tombe là, je crie. Et moi, je prends toute l'eau et je pars.
Mais oui, parce que t'es vraiment enveloppé. Moi, j'ai eu des genres de semi-enveloppement. J'arrivais quand même à voir ce qu'il y avait, à bien voir ce qu'il y avait devant moi. Mais imagine quand t'es vraiment enveloppé à l'arrière et... Alors, je vais dire vraiment à l'avant, un tout petit peu plus à l'avant, où tu n'arrives plus à rien voir à part un petit bout de ciel ou un petit bout de mer, de sable au loin qui apparaît. Donc ça doit créer un niveau d'anxiété assez particulier, sachant que à la base, le surf, le fait que tu te sentes assez libre, c'est parce que tu as beaucoup d'espace devant toi.
Exact.
Donc là, c'est l'effet inverse que ça fait. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'aurais bien aimé vivre. C'est assez spécial, hein, mais j'aurais bien aimé vivre pour savoir quel sentiment, en fait, ça te procure.
Alors, deux choses. La première, t'as encore de longues années devant toi pour tenter l'expérience.
Ouais, bah, faut des abdos entre-temps.
Hein. T'inquiète pas, ça va, les abdos, facile. Et deuxième chose, effectivement, je pense que c'est lié au lâcher-prise. Tu vois, t'en parlais
oui,
tout à l'heure.
Oui,
c'est un lâcher-prise, en fait.
C'est un lâcher-prise, ouais.
C'est le côté solitaire, comme t'as dit, se reconnecter à la nature, être seul, introspection.
Beaucoup d'introspection.
Et je pense que les gens qui excellent, ces gens qui sont capables de lâcher prise. Moi, comme ce n'est pas mon cas, je me noie tout de suite.
Réfléchisse plus, je pense qu'il faut avoir un niveau d'expert quand même pour arriver à ce stade-là.
Ouais, clairement.
De vraiment prendre un tube, il faut être expert.
Il faut être un tueur. Deuxième sport dans lequel j'ai une anecdote et qui aussi est un sport dangereux. Donc, je rappelle, les surfeuses comme les surfeurs prennent exactement les mêmes risques, c'est important. Et avant de faire du surf en sauvage, vous allez bien dans une école, vous apprenez le truc, faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Et on a aussi la moto, évidemment, et notamment le rallye aussi. Alors, j'ai l'anecdote d'une espagnole qui s'appelle Laia Sanz. Alors elle, c'est simple, elle est multiple championne d'endurance, pilote du Dakar, surnommée la reine du désert, a terminé plusieurs fois dans le top 20 malgré ses accidents, et elle, en fait, les accidents dangereux qu'elle a eu, c'est réservoir percé au milieu du désert, panne de GPS, plus de navigation en panne, collision avec des rochers,
oui.
Voilà, et des fractures aux mains.
Des fractures aux mains ?
Ouais, carrément à cause des débris et tout.
Ok, voilà. Elle a continué à conduire du coup ?
Oh, ouais,
c'est
juste
pour savoir comment, parce que comme elle doit utiliser ses mains.
Elle n'a pas lâché.
Ok.
Elle lâche pas. Donc on est vraiment sur les chutes à grande vitesse, la déshydratation au milieu du désert en galère, la navigation difficile, sachant qu'évidemment on parle des années récentes, c'est-à-dire que le Paris-Dakar dans les années 80, j'en parle même pas. T'es dans une tôle à ça à 400 degrés et tout. Et donc effectivement, les technologies qui ont été mises en place, il y a aussi les airbags intégrés aux combinaisons pour les motos par exemple, c'est les airbags à l'arrière pour les colonnes vertébrales, les fameuses balises GPS qui sont devenues obligatoires pour permettre au secours tout de suite d'intervenir.
D'intervenir, oui.
Et effectivement, tout ce qui est casque, combinaison, etc., plus légère, tu vois, et plus de protection. Mais clairement, pour moi, rallye, moto, c'est un délire, hein. Vraiment.
F1 aussi, Formule 1, c'est assez dangereux. En plus de la perte de poids assez conséquente
Alors, le F1,
à la fin, au regard de
le F1, j'ai une anecdote, j'ai une anecdote après. Donc, sur le deux roues, madame, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'on peut faire du deux roues en compétition? Tu m'en parlais d'ailleurs, on a fait le premier épisode, Sarah Lesito.
Oui, le stunt. Voilà. Mais ça, c'est autre chose encore, parce que le deux roues, tel que tu peut-être l'envisages toi, c'est un peu MotoGP, donc grande vitesse, circuit, etc.
La moto.
Alors, quelle est la question, du coup, pour la moto ? Est-ce que c'est dangereux ?
Voilà.
Ah oui, c'est vachement dangereux.
Est-ce que tu penses,
quand
toi,
tu fais du stunt.
Et je te poserai la question, est-ce que tu as déjà vécu une chute en moto ?
Ah bah bien sûr, moi j'ai fait un accident de moto à brûlure second degré, en sportive, en errant, absolument affreux. Mais c'est parce que justement, j'ai pas pris les dispositions nécessaires. Je pense que j'aurais pas pu éviter l'accident, évidemment, mais j'aurais pu éviter les blessures si j'avais eu une combinaison. Moi, c'était pas mon cas. J'étais en débardeur, j'avais, je pense, absolument aucun respect pour ma personne, parce que je suis. J'étais en mocassin, jean, débardeur. Non, mais.
Tu étais libre.
J'étais libre, voilà, exactement. Et depuis ce jour, je ne peux qu'exhorter les gens de porter une combinaison de moto pour se protéger, parce qu'il suffit parfois d'une chute, mais même à 20 km/h. Hein. Tu chutes, tu te prends tout le goudron. D'ailleurs, moi j'ai encore du goudron sur mes coudes. Donc oui, parce qu'ils l'ont mal retiré à l'hôpital. Oui, j'ai encore du goudron sur mes coudes.
Voilà, ouais. Vous entendez bien. Attention, le sol, quand ils veulent vous rappeler à l'ordre,
le sol chaud, parce que c'était l'été.
C'est vrai.
Donc,
bien vu.
Donc voilà.
Bien vu. Autre sport extrême dans lequel, effectivement, qui est un sport particulier pour le coup, on va parler d'escalade, d'alpinisme pendant deux secondes. Donc, je veux vous parler de Wanda Rutkiewicz, qui était polonaise, pionnière de l'alpinisme féminin. La première femme à gravir le K2. Alors, le K2, c'est après l'Everest. C'est une altitude officielle de 8611 mètres. Je déconne pas, c'est un truc de fou. Deuxième sommet du monde après l'Everest. C'est le point culminant du Pakistan. Il est surnommé la montagne sauvage en raison de la difficulté de son ascension. En 1986, elle a réussi à cet exploit fou. Et en 1992, dans l'Himalaya, qu'elle avait déjà fait, parce qu'elle a fait l'Everest en 1978, elle va malheureusement perdre la vie.
Ouh là là.
Et on oublie souvent que l'alpinisme, c'est...
Oui,
c'est
non,
énervé.
C'est vraiment énervé pour le coup.
Chute mortelle, avalanche.
Mais je me demande en fait s'ils partent avec un état d'esprit où ils se disent « Ok, j'y vais, mais je sais qu'à tout moment, je peux mourir. » Moi, c'est une question que je me
pense,
pose.
Ouais. Moi, je pense. Sinon, tu peux pas y aller serein.
Donc, ils y vont vraiment en connaissance de cause.
Ah oui.
Ouais, okay.
Moi, je pense que c'est obligé, tu peux pas. Entre les avalanches, les chutes mortelles, l'hypoxie, le fait qu'à un moment donné, tu vas te tourner et tu vas dire « Il y a un problème !» Mais comme il fait moins 12, t'as plus de voix, plus d'oxygène, tu fais « Comment te dire ?» Le risque, il est grand quand même, tu vois. Pour moi, vraiment, je trouve que c'est un sport fou. Et Wanda Rutkiewicz, chapeau. Vraiment, chapeau à cette dame. Donc, ce qu'ils ont mis comme technologie en place, ils ont mis des cordes dynamiques qui absorbent les chocs. Tu sais, parce que tu as aussi la fameuse corde, elle cède, tu vois.
Alors, moi,
sous mon poids, on le sait, mais elles peuvent céder à cause de l'usure sur les rochers, par exemple. GPS et balises de détresse en montagne, ce qui est aussi une performance. Et système d'oxygénation portatif plus léger pour les expéditions en haute altitude. Donc, ils ont vraiment... tout le truc qu'il faut. Dédicace à Inoxtag qui a fait monter l'Everest, mais lui il était très bien entouré pour le coup. Là on parle de vrais sportifs de l'extrême complètement fous. Et on va aller sur la F1, bien sûr. La F1, alors très dangereux. Alors on va parler rapidement de Maria de Villota, espagnole, pilote d'essai F1 pour une écurie russe dont je donnerai pas le nom, parce qu'elle a été victime en 2012 d'un terrible accident qui lui a coûté un œil, le sens de l'odorat, le sens du goût.
Oula.
En fait, la voiture était au ralenti, elle a accéléré d'un coup, elle s'est emboutie dans un camion directement de l'écurie. Elle a milité le reste de sa vie contre tout ce qui était blessure, sécurité dans la F1, c'est vraiment une grande dame. Et elle est morte un an plus tard, à seulement 33 ans, dans son sommeil, des suites des blessures neurologiques de cet accident.
Oula.
Comme quoi la F1, voilà, moi il y a un truc que je voudrais dire avant que t'enchaînes, c'est rappelez-vous tous, que vous soyez une femme ou un homme, quand vous avez un accident, l'accident il dit pas quel est ton genre. Il s'en fiche, prenez les mêmes risques, c'est important de le préciser. Mais vas-y, je te laisse enchaîner.
Non, c'est ce que je disais il y a quelques minutes par rapport à la F1, c'est que au-delà du risque qui peut être créé au moment en fait de la course, c'est que tu as une pression cardiaque qui est très importante, qu'il faut prendre en considération. Il me semble de mémoire qui sont les pilotes en fait sont directement connectés à un genre de centre.
Oui. Maintenant, oui.
Sur place.
Ce qui n'est pas le cas avant, mais...
Et en fait, si tu veux, ils mettent des capteurs, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, sur leur cœur directement pour pouvoir détecter les battements à distance, au cas où, pendant la course, ils vont déceler en fait, des battements qui sont irréguliers, donc soit plus faibles, soit beaucoup, beaucoup trop hauts, ce qui est généralement le cas, tu vois.
Ouais.
Et y en a beaucoup aussi qui perdent du poids.
Ouais.
Parce que tu sues tellement dans ta combi. Que en moyenne, si je me souviens bien de ce que j'avais lu, c'est entre 1 et 2 kilos.
Oui.
que tu perds. C'est extraordinaire.
Ça peut aller jusqu'à 3 et par course, par Grand Prix. Donc comme là, il y a la saison qui est encore actuellement là, sachez qu'à chaque Grand Prix, tous les 15 jours, les pilotes, leur corps est mis à une épreuve de fou, parce qu'ils perdent 2 à 3 kilos effectivement par course. C'est complètement fou. Et effectivement, ils ont rajouté plein de choses. Ils ont rajouté l'arceau devant pour éviter que les débris tapent la tête du pilote.
Oui.
Ça, c'est important. Le volant qui s'enlève. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les années 80, j'en ai vu des courses comme ça, et les années 60, quand vous restiez coincé dans votre habitacle, parce que l'habitacle avait pris un choc, il était enfoncé, le volant vous empêchait de sortir.
Il t'empêche parce que il t'écrase, en fait, et comme c'est déjà petit, si tu veux, à l'intérieur, mais ça, je ne savais pas pour le coup, c'est très intéressant.
Et il se décroche. Et il faut savoir que, alors, les volants, ils coûtent une fortune, puisqu'il y a tous les réglages de la voiture. Hein. Maintenant, c'est devenu la technologie d'aller encore plus loin que simplement le décrocher, mais le décrocher, déjà, sauve des vies. Et évidemment, il y a les crash tests. Et évidemment, comme on l'a dit, et c'est le cas de la F1, beaucoup de femmes, dont on parle peu, mais il y en a une qui est très célèbre chez McLaren en ce moment, une petite jeune, c'est des filles qui font l'essai. Alors aujourd'hui, la Formule 1 est censée être mixte, mais il n'y a que des mecs. La Fédération de Formule 1 essaye de faire une ligue féminine actuellement pour que les filles puissent faire de la F1. Mais ce qu'on invisibilise, mais qui est vrai, c'est que beaucoup de pilotes d'essai des Formule 1, donc celle de Villeneuve, de Leclerc, de tous ces gens-là, c'est souvent des meufs qui sont qui pilotent en fait, parce qu'elles sont en Formule 3 et en fait elles font les tests de F1 pour préparer la voiture. Mais ça n'empêche pas, comme on l'a dit, pour Maria De Villotta, ça reste risqué. C'est pas parce que t'es pilote d'essai que c'est rien, quoi.
Ah non, absolument pas. Mais c'est tout le principe. Tu prends le risque, en fait, en tant que pilote d'essai, d'abord. Puisque c'est toi qui ouvre le bal. Voilà. T'es un pilote d'essai, donc si tu veux, t'as déjà la réponse dans cette affirmation-là. T'es pilote d'essai, donc c'est toi, en fait, qui découvre tous les risques en amont pour pouvoir, en fait, ensuite les...
Et ce que tu viens de faire là, c'est une CAD. Tu viens de m'expliquer un terme que j'avais dit sans le comprendre et en me réexpliquant le terme pilote d'essai. Tu valides. Voilà, merci. Merci. Alors du coup, on en arrive au remerciement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste 57 hommes à rendre l'antenne. Alors déjà, je tiens à te remercier infiniment de ta présence.
Merci à toi.
Vraiment.
Merci à toi.
Voilà. Là, dans quelques instants, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Tu pourras remercier qui tu veux. Donc, pour nous suivre, c'est @championne l'émission sur Instagram. La Fédération Française de Surf, c'est @surfingfrance. D'accord. Stéphanie Gilmore, bien sûr. La PETA, parce qu'on aime les animaux. Et bien sûr, sur la page Facebook Cuisse de Foot, tenue par un ami qui s'appelle Damien, avec des cheveux. Hein, c'est mon ami. Voilà. Le mot de la fin, on a encore le temps. Alors, c'est le moment où tu fais ta dédicace à ta mère. Vas-y.
Absolument. La première des dédicaces, comme d'habitude, depuis 31 ans d'existence, va toujours vers ma maman, qui nous écoute d'ailleurs et qui, qui était très intéressée par le sujet, puisque c'est elle qui m'a forcée à aller faire du surf. mais elle a eu raison. Non, je tenais aussi à te remercier de m'avoir invitée et de m'avoir laissé la liberté de choisir un sport en particulier avec une championne particulière. J'espère qu'il y aura d'autres épisodes. Je remercie aussi l'équipe pour sa gentillesse et je remercie aussi Mélanie qui est juste à côté de nous.
Oui, Mélanie qui nous a rejoint. Bientôt, elle sera au micro, elle aussi, promis. Merci la régie, comme d'habitude. Diego Armando Maradona, bien sûr, toujours là. Moi, merci que tu sois venu. C'était cool. Je connaissais pas du tout Stéphanie Gilmore, donc belle de.
Est-ce que ça t'a donné envie de faire du surf ?
En vrai,
est-ce que tu ne détestes plus l'eau ?
Non, en fait, je t'explique. Ça m'a donné envie de faire du surf de manière virtuelle,
en
jeu vidéo. Tu vois, en jeu vidéo, oui. Mais California Games, bien sûr. Bien sûr, Damien doit avoir la ref. California Games, bien sûr, le jeu du surf avec le requin qui poursuit. Ça m'intéresse. Mais en vrai, non, je suis trop dangereux, moi. L'eau et moi, ça fait deux, c'est vraiment pas bon.
Bah, c'est vraiment dommage.
Mais merci, d'ailleurs tu es invité, tu reviens quand tu veux, quand tu as la possibilité de venir, avec grand plaisir.
Avec
Mélanie,
plaisir.
T'inquiète, pour la prochaine. Dédicace évidemment à Sandrine qui nous écoute, évidemment Damien aussi, Thomas, tout ça, évidemment, Elodie, Shaima, etc. Merci à LGFM de nous laisser faire la saison 2, c'est vraiment très gentil à eux. C'est bien sûr 93.1 en direct le vendredi de 19h à 20h. Là j'ai l'impression de me prendre pour Edouard Baird et c'est le moment où je rends l'antenne.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.